Émission On en jase, émission sur son sondage, Pascal Séré, que vous appréciez de plus en plus. C'est le fun de vous parler, c'est le fun d'être là pour vous. On est vraiment très, très, très heureux de faire cette émission sur l'heure du midi, moi et Pascal, de midi à 14h. Comme d'habitude, évidemment, ce sera le retour de Gravel qui va suivre à 14h, donc de 14h à 18h. Denis Verrouf et Audrey Pinchot qui vont s'installer en studio pour vous divertir et vous informer. Je l'ai dit avant la pause, Pascal, on s'en va rejoindre un animateur qui a eu des excellents chiffres de sondage également à Montréal. Il est au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ah, je vais super bien, je suis content pour vous. Bravo à toute l'équipe.
Merci, c'est super gentil, Rémi. Merci de participer à cette émission-là. Oui. Tu es avec nous à chaque mardi et jeudi. Puis comme je dis tout le temps, et c'est vraiment pas pour être têteux ou trop gentil, mais on a toujours des discussions intéressantes et pertinentes avec toi. C'est ce que j'aime. Et avant justement de faire cette discussion-là sur l'interdiction des médias sociaux, que je suis certain va être très, très, très intéressante, je veux qu'on parle, Rémi, de qui va partir en premier? Celui qui marche sur la neige ou celui qui marche sur des œufs? Donc, François Legault ou Pablo Rodriguez?
Bien, François Legault dit qu'il ne partira pas. Moi, je le crois. Hein, je le crois. Mm-hmm. Ça fait des mois que plein de gens essaient de me convaincre qu'il ne peut pas répondre autre chose que ça. Parce que s'il flanche, s'il est vague, s'il n'est pas tout à fait clair, ben là, c'est le début de la fin. Puis moi, je rappelle tout le temps que le début de la fin, il a commencé sans cette question-là autour de s'il part ou s'il reste, là. Non, c'est qu'il y a une personnalité particulière, François Legault, et lorsqu'on lui pose la question, il donne des bons arguments. Lui, il veut battre le record de Maurice Duplessis, obtenir un troisième mandat, être le premier à le faire depuis, en tout cas, Maurice Duplessis. Donc, moi, je pense qu'il va se présenter. Pablo, pour répondre à ta question, va partir en premier. Mais posons-nous une autre question.
Vas-y.
Est-ce que ce n'est pas une meilleure idée pour la CAQ que François Legault parte le premier? Parce que si Pablo Rodriguez s'entête, et là aujourd'hui il a dit qu'il restait, ben la CAQ perd du temps pour prendre la place des libéraux et former le deuxième groupe sur lequel les Québécois auront à se positionner, hein, l'autre bloc étant le Parti québécois, en vue de la prochaine élection. Parce que là, la CAQ, ça fait des années qu'on le dit. Ça va être une élection compliquée, celle de 2026, parce que si le PQ est premier et parle de référendum et de souveraineté, ben ça prend un autre parti qui est l'envers de cette médaille-là et qui parle de façon plus convaincante de rester dans le Canada que la CAQ ne peut le faire. La CAQ, c'est toujours un peu bizarre quand elle nous dit qu'elle est contre le référendum, mais qu'elle n'est pas pour non plus le régime fédéral. Les Québécois, comme n'importe quel électeur, quand vient le temps de trancher, ils veulent des options claires. Hein? C'est un reproche qu'on fait souvent à nos élus et à nos partis politiques quand ils se présentent. C'est quoi votre position là-dessus? C'est pas clair dans la plateforme. Donc, en vue de 2026, ça prend un parti qui est ouvertement fédéraliste. Si le Parti libéral n'est plus ce parti-là parce que, pour des raisons qu'on connaît, il perd des plumes, bien, la CAQ a une occasion en or de prendre cette place-là. Donc, je dis, Pablo va partir en premier parce que François Legault ne veut pas partir et va rester. Mais François Legault devrait partir et il devrait trouver quelqu'un idéalement qui vient de l'extérieur du parti. On en a souvent parlé, ça ne court pas les rues et c'est de leur faute. Et seulement de leur faute, s'il n'y a pas un candidat à l'interne qui peut se démarquer aujourd'hui, ils ont tous brûlé.
Merci,
un par un.
Merci, 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 merci. C'est la chose que je martèle depuis un an. Et les élections s'en viennent. Et François Legault, il perd des plumes. Il n'y en reste plus beaucoup. Il ramène le pouvoir à lui. C'était pas supposé être ça en plus. Mais il ramène le pouvoir à lui et il tue chacun de ses soldats un à un. Là, je parle tuer politiquement, là. Mais il a envoyé devant l'autobus nombreux candidats qui auraient pu faire l'affaire pour reprendre le mandat d'être le leader du parti, étant la CAQ dans ce cas-ci. Je comprends pas. Et c'est là où je me suis mise à me poser des questions à savoir si le parti de la CAQ n'est pas le parti François Legault incorporé. Et en quittant, ben, il devra quitter tout simplement et donc détruire son parti parce qu'il n'y aura personne pour continuer.
Ben, j'ai posé la question hier à Pierre Dufour, hein, c'est le député indépendant de l'Abitibi. Lui, ça a été l'un des premiers il s'est fait claquer la porte parce qu'il voulait un ministre à la suite du remaniement du cabinet ministériel en Abitibi. Il voulait être ministre. Et on lui a dit « Non, non, tu ne sors pas sa place publique pour dire des affaires pareilles, t'es dehors. » Et lui, il a dit, à ce sujet-là très précis, Pascal, la CAQ, c'est une entreprise. Ça a été fondé comme une entreprise.
Bon.
Et le PDG de l'entreprise, c'est François Legault. Et c'est un peu pour ça qu'on a en partie de la difficulté à montrer la porte au bonhomme. Parce que lui, il dit, ben non, c'est mon entreprise, c'est mon bébé. Donc, vous ne me demanderez pas. Hein, Si vous avez vu Succession, on se rappelle de la série sur Crave Succession, quand le patron de la famille, on lui dit va-t'en, il faut que tu t'en ailles, il veut pas s'en aller parce que c'est son bébé. Ben, c'est la même chose à la CAQ.
Ben alors, est-ce que là l'erreur que François Legault ait créé son parti comme une entreprise dès le départ, puis qu'il y en a qui se sont leurrés, soit des candidats ou des députés maintenant et ou des ministres au sein du parti, en se disant eh merde, j'aurais peut-être pas dû aller dans ce parti-là parce que quand ça fait pas, je suis un employé qui quitte le bateau, puis on se soucie pas de moi.
S'il y a une erreur qui englobe celle que tu viens de nommer, ce n'est pas exactement celle-là, à mon avis, c'est celle d'avoir pensé que ce parti-là pourrait durer. On a pensé à l'époque, on disait c'est la troisième voie. Les Québécois sont tannés de parler de souveraineté, sont tannés de parler de rester aussi dans le Canada puis de multiculturalisme. Ça prend une troisième voie. Et on pensait vraiment à la CAQ qu'on serait capable de faire ça, mais il fallait un peu plus de lucidité. C'était un parti circonstanciel. C'était un parti qui profitait de certaines conditions historiques, conditions d'actualité. Et là, on le voit, ce parti-là a de la difficulté à se présenter aux Québécois. Qu'est-ce que vous êtes? C'est quoi votre projet de société? Vous êtes un peu comme le Parti libéral, un parti un peu affairiste, OK? On envoie du monde à l'autre bout du monde, on vend de l'électricité à des entreprises, on n'en a pas. Fitzgibbon revient, bye-bye Fitzgibbon. Vous êtes aussi un parti identitaire, des lois identitaires. Ben là, le PQ dit, nous, on va être un parti identitaire. On va s'occuper évidemment de l'économie, mais c'est plus un parti identitaire sous la mouture de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Puis vous avez un parti libéral qui est dans la marde pour les raisons qu'on connaît. Puis là, la CAQ dit, c'est l'occasion parfaite pour eux de se démarquer, mais ils ne sont pas capables parce que dans leur ADN, c'est un parti qui a une date d'expiration et c'est 2026.
Non, mais tu as raison parce que j'ai toujours mentionné c'est quoi la CAQ? Qu'est-ce que la CAQ? Et si tu parles à un militant de la CAQ, premièrement, il n'y en a pas tant que ça des militants de la CAQ parce qu'ils sont avant tout des militants du Parti libéral ou du PQ. C'était juste des péquistes et des libéraux déçus ou frustrés qui se sont retrouvés à la CAQ. C'est quoi la CAQ? On n'est pas capable de répondre, Rémi, c'est quoi la CAQ?
Ben, cette semaine, avec la sortie de Bernard Drinville au micro de
Ouf!
Paul Larocque, on s'en est bien rendu compte c'était quoi la CAQ aussi, parce que je rappelle une chose, CAQ, c'est Coalition Avenir Québec. Donc, laissons tomber Avenir Québec, là, ça, c'est quétaine, puis c'est un nom de parti. Mais coalition, non, mais coalition, ça veut dire qu'il y a des fédéralistes et des souverainistes. Je m'excuse, là, mais c'est quand la dernière fois qu'il y a un souverainiste à la CAQ qui l'a dit qu'il était souverainiste publiquement? Si c'était une coalition, là, quand on poserait la question à Jean-François Roberge, à Mathieu Lacombe, à Simon-Jolin Barrette, à François Legault, êtes-vous souverainiste? Ils diraient, ben oui, on est souverainiste, une coalition de souverainistes et de fédéralistes. Sauf qu'à chaque fois qu'on leur pose la question, ils disent, non, mais nous autres, on pense que le référendum, c'est une mauvaise idée. Mais donc, vous êtes fédéraliste? Ah, ben oui, c'est aussi simple que ça, la politique au Québec.
Exactement.
Malgré les éclipses, malgré les périodes un petit peu plus vaseuses, malgré les circonstances et les
Ouais, mais
dépôts,
Rémi,
on revient à
on
l'essentiel.
cherche tellement qu'on essaye de donner le camp du non à CAQ, ça n'a pas d'allure, là.
Mais non, je sais. Puis il y en a qui se. Bernard Drinville, c'est le dernier en liste, c'est-à-dire le référendum, c'est le passé, on n'est plus rendu là. Il dit, ben, va-t'en au Parti libéral, Bernard.
Mais chose
Va-t'en au Parti
triste,
libéral.
chose triste qui se passe parce que je pense qu'il y avait de bons candidats en termes de politique au sein de la CAQ. On les a brûlés pour beaucoup. Énormément de ces politiciens-là auront du mal à se retrouver un siège et d'être élus. Ça ne veut pas dire que d'autres partis ne voudront pas d'eux, mais d'être élus là, par le commun des mortels. On dit qu'on ne se souvient pas tant que ça, mais on se souvient souvent aussi, là. Puis, tu as un Simon-Jolin Barrette qui n'a pas trop été écorché, qui a été capable de travailler dans son ministère, mais il n'y a pas de charisme. Puis, ça prend ça aussi pour être au leadership d'une équipe. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'il fouille à l'extérieur. Puis, ça, c'est encore si François Legault va tendre la main à cette prochaine personne-là et si les gens à l'interne ne seront pas trop offusqués qu'on n'ait pas pigé parmi ceux qui ont été de loyaux soldats pendant de nombreuses années.
Mais Pascal, Simon-Jolin Barrette n'a pas été écorché jusqu'à ce qu'on l'envoie présenter son projet de constitution en moins d'un an de l'élection.
Oui, il y a
Et
deux
là, c'est
semaines.
rendu, il y a, tout le monde est contre lui. Il y a même le barreau qui sort en disant que c'est un recul des droits au Québec. Tu as des associations féministes qui disent que ce n'est pas une bonne idée de parler d'avortement. Tout le monde est contre lui. Toute l'opposition, tout le monde est contre lui. Donc, quand on parlait tantôt de brûler du monde, là, puis de scraper des carrières politiques. Je vous rassure, ceux qui aiment bien Simon-Jolin Barrette, ce n'est pas terminé pour lui, mais il ne sera pas le chef de la CAQ, là. Ça ne sera pas ça,
Mais il n'y avait pas le
la porte de
profil
sortie.
charismatique à la base,
Oui, mais ça
donc.
se règle, ça, hein, parce que Philippe Couillard, pas le gars le plus charismatique sur la Terre non plus, Robert Bourassa non plus.
Ben déjà un peu plus que Simon-Jolin Barrette. Là, je veux dire, Anne Guérette au municipal avait tenté de déverrouiller son charisme avec une aide X. C'est pas encore la personne la plus charismatique. Moi, je pense que le charisme, ça ne s'acquiert pas nécessairement. Tu peux être plus sympathique, mais le charisme, tu nais ou pas avec.
Bien, ça se travaille et on convient qu'il part de loin, Simon-Jolin Barrette. T'sais, il faudrait qu'il ait participé à, je sais pas, à une couple d'épisodes de Sucré-Salé là, pour qu'on le voie en costume de bain, pour voir qu'il est capable de s'amuser. Petit gin tonic pour Simon-Jolin Barrette. C'est con, il m'entendrait dire ça puis il dirait c'est vulgaire, mais c'est parce que la vérité, c'est que c'est ça la politique aussi,
Ouais,
là.
c'est ça. Pierre Poilievre amène sa femme, il se met en t-shirt blanc, la Top Gun. Ouais, ça marche pas toujours non plus. Hey, Rémi, on change de sujet. On y va avec les médias sociaux. Le PQ propose interdiction des médias sociaux pour les moins de 14 ans. En passant, Pascal, on va sûrement avoir Pascal Paradis justement à notre émission dans Jase demain pour en parler. On est en train d'essayer de régler ça. Il n'était pas disponible aujourd'hui, mais on va l'avoir demain pour parler de ça. Moi, Rémi, je me suis positionné ce matin. On en a parlé dans le pit stop avec Yannick et Denis. J'ai dit, moi, je suis contre cette interdiction-là parce que je suis quelqu'un qui est un pédagogue. Je veux qu'on travaille plus à apprendre à nos jeunes comment manier les médias sociaux, comment les gérer, comment les incorporer dans notre vie plutôt que l'interdiction. Toi, tu te situes où, mon ami?
Écoute, faire de la chronique, c'est moi, je fais le pari que c'est faire le pari de l'honnêteté et de l'intégrité. Aujourd'hui, je vais vous dire, je ne suis pas capable de trancher. Je vais vous dire, par contre, je vais vous révéler ce qui me divise. D'un côté, tu vois, je suis un peu plus pessimiste que toi quant à la possibilité de faire la pédagogie de ce truc, parce que moi, je pars du principe que c'est une drogue. Donc, c'est une drogue. Tu peux dire à un junkie que c'est pas bon l'héroïne, mais il y en a toujours de besoin, puis il y en a toujours envie. Hein? Tu vas peut-être en réchapper une coupe avec la pédagogie, mais une drogue, ça reste une drogue. Donc, je comprends l'intention du Parti québécois. Je comprends pourquoi l'Australie est allée de l'avant aussi comme ça. On s'est dit, ça ne fonctionnera pas. Par contre, c'est dit, c'est une drogue. Donc, normalement, je devrais être en faveur de, on légifère autour d'une drogue. Mais le problème, c'est que le signal qu'on envoie, c'est que les parents ne sont pas capables de s'en occuper. Donc, on va le faire. Et là, tu te dis, ouais, mais là, tu ouvres une drôle de porte, là. Parce que la prochaine étape, c'est quoi exactement? C'est-tu les sites Internet en général, la pornographie? C'est-tu comme, est-ce que c'est les sites, les vidéos YouTube, on s'assure qu'à la maison, il y a bel et bien la petite coche sur, OK, ça c'est du contenu pour... Tu sais, on peut entrer dans beaucoup d'affaires après. Donc, je comprends. Moi, je sais que les parents ont échoué là, hein, là-dessus, on va se le dire, là. Si, on les connaît, les chiffres, c'est les enfants de 3 ans. On a 65% des enfants de moins de 3 ans qui passent plus d'une heure par jour devant les écrans la fin de semaine. Donc là, je m'excuse, ça fait plate, ça fait de la peine à beaucoup de gens qui nous écoutent, mais les parents, peut-être pas vous, mais les parents au Québec ont relativement échoué là-dessus. Donc, je comprends le gouvernement de vouloir agir, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça ne sera pas au gouvernement de gérer tout le reste. Donc, je me dis non, on peut pas ouvrir cette porte-là. Mais je n'ai pas tranché, je ne réussis pas à trancher. Parce qu'à chaque fois qu'on recule, ou enfin qu'on retarde, plutôt devrais-je dire, l'avancée dans des affaires de même, on perd beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Hein? On a parlé pendant la COVID d'une génération qui avait été sacrifiée, moins d'activités dehors, moins vue d'amis. Puis on dit aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils boivent moins d'alcool, qu'ils font moins la fête, qu'ils vivent moins leur jeunesse. Fait que ça me fait peur, évidemment, d'être celui aujourd'hui qui dit je ne sais pas. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de. Il y a des grandes, grandes, grandes implications, là.
J'ai une question par rapport à ça parce que je sais même pas, je sais même plus à qui ça revient en fait de prendre cette décision-là. C'est vraiment au gouvernement de le faire parce que comment tu vas régir ça? C'est bien trop complexe. C'est sinon extrêmement prenant puis ça va entrecouper certains droits à la personne là, dans sa consommation. Ensuite, je me dis oui, mais il faut faire quelque chose parce que même si on s'en va là, ça va peut-être enlever aux parents cette charge de prendre soin, d'être au courant, de savoir c'est quoi TikTok, savoir c'est quoi Snapchat, ça convient à quoi? Où est-ce qu'on est dans marge de peut-être être dans la défaillance parentale puis d'ouvrir finalement un canal, un vortex super dangereux à notre enfant, comme la géolocalisation de Snapchat qui m'a fait capoter. Personnellement, quand tu es capable d'aller chercher l'enfant exactement à l'adresse où il est puis c'est ouvert à tout le monde, j'aime vraiment pas comment c'est fait. Puis ça, il y a plusieurs parents qui sont pas au courant. Mais le point, là, par excellence là-dedans, c'est que si tu vas contraindre un enfant à ne pas avoir accès à quelque chose et que tu oublies l'éducation quand même à faire, même s'il n'a pas le droit sur la chose, exemple, commencer à parler de sexualité avant même que l'enfant ait pensé avoir une relation sexuelle complète avec quelqu'un, par exemple, bien c'est là où tout tombe dans le trou parce que quand il va avoir le droit, il n'aura pas été préparé, puis les dommages collatéraux vont peut-être être plus graves encore que ceux qu'on constate en ce moment.
Ouais. Bon, moi, je suis vraiment content que mes parents ne m'aient pas parlé de sexualité, par contre. Là. J'ai été tirer mes
Moi aussi.
enseignements ailleurs. Non, 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 mais je fais une blague,
Ben
Pascal.
oui, on s'entend.
Sur la question de la pédagogie, c'est parce qu'elle est déjà, elle est déjà faite normalement. Qu'est-ce que les parents font en ce moment? Ils disent à leurs enfants que c'est pas une bonne idée de passer 5 heures par jour en revenant à la maison derrière leurs écrans. C'est une drogue.
Mais
ça
si
fonctionne
mais
pas.
Si tu les prives, là, c'est comme si moi, j'avais pas de sucre quand j'étais jeune à la maison. J'en avais dans le temps des fêtes, puis j'en avais au camp de jour. Puis c'était bien complexe sinon en avoir des fruits au long, mais tout le monde en avait, tu sais. Fait que quand j'étais arrivée en appartement toute seule, quitté à 16 ans pour les études ailleurs, que t'as pas Rémi qui en avait des Lucky Charms dans mon garde-manger, puis tout ça, j'étais contente de tomber là-dedans. Mais si on m'avait pas dit ce que ça faisait comme chose néfaste dans mon corps, probablement que je serais pas celle que je suis aujourd'hui, là. Comprenez ce que je veux dire.
Oui, mais je pense que la pédagogie, on l'a déjà essayé, cette étape-là. T'sais. Moi, encore une fois, je ne suis pas encore en train de défendre cette position-là, mais je pense qu'il faut être lucide, là. Je pense que la pédagogie n'a pas fonctionné. Je ne pense pas qu'elle va fonctionner. Je pense que les jeunes sont accros à ça. Puis je pense que ça va plus être utile pour les jeunes enfants, là, ceux qui ont peut-être 8 ans en ce moment. Quand ils vont avoir 9 ans, 10 ans, puis qu'ils vont voir du monde qui sont pas mal derrière leur téléphone, puis qu'ils vont aller regarder, ils vont dire, c'est quoi ça? Ça s'appelle Facebook, ça c'est interdit, mais intéresse-toi pas à ça. Ça va être facile avec eux, plus facile en tout cas. Ceux qui ont 12, 13, 14 ans en ce moment, oh, bonne chance, effectivement, parce qu'eux, ils ont déjà des comptes Facebook,
Ils
Snapchat,
savent.
Instagram, toutes ces patentes-là, TikTok aussi, hein? Donc, eux, ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Mais
Ouais.
comment tu réussis à bloquer
Ben
ça à
ils
des
le font en
enfants?
Australie. Donc, il y a sans doute une procédure. Tu peux peut-être faire un copier-coller, je
Mais
ne sais pas.
mettons, dans les pays communistes, ils n'ont pas accès à certaines nouvelles, ils n'ont pas accès à certaines informations. Des fois, à Internet, c'est coupé, mais ils réussissent à craquer. T'sais, moi, je ne sais pas si ça va coûter extrêmement cher à mettre en place une mesure comme ça pour pas. Mais je suis divisée parce que j'en ai pas d'enfants de toute manière, puis ce serait la première chose à laquelle je serais inquiète. Puis je sais que je flancherais. Puis je sais qu'une fois de temps en temps, un film même, ce serait un écran de trop dans la vie de mon enfant 0-3 ans. Je l'ai étudié en psychologie. Je sais ce que ça fait sur le développement du cerveau d'une personne. Puis de plus en plus, on commence à... Mais légiférer ça, je me demande si ce serait pas trop d'argent investi dans quelque chose qu'on réussira pas finalement, un genre de panier bleu.
Ouais. Je pense que ça marcherait quand même
OK.
pour beaucoup de gens. Ça, tu sais, ceux qui finissent par craquer les trucs, là, craquer dans le sens pirater des
Oui.
affaires, ça reste quand même une minorité. Là. On s'en rappelle de ces élèves-là quand on allait à l'école. Là, ils avaient des personnalités particulières. Là. Donc, tu sais, eux autres, ils réussiraient, mais la majorité probablement que ferait ce que la majorité fait tout le temps, puis apprendrait son trou.
Moi, je continue à réfléchir à cette question-là, Rémi Villemur, chose certaine, parce qu'aujourd'hui, en me disant, ouais, Jeff, on en fait déjà de la pédagogie. Puis avec mon collègue du matin, Yannick Marceau, qui me dit, hey, Jeff, c'est pas tous les parents qui sont égaux dans leur pédagogie. Vous me faites réfléchir à savoir si c'est bon ou non, cette interdiction-là. Et c'est pour ça qu'on fait de la radio, Pascal Cévé. C'est pour avoir de la divergence d'opinion
oui.
et réfléchir. Alors, merci, Rémi Villemur, de contribuer à mon cerveau.
À la semaine prochaine.
Hey, à
Salut.
La semaine prochaine, à mardi. Bon week-end, mon ami, puis j'espère te voir à Québec bientôt.
Oui.
Salut. C'était Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal. Pascal, après la pause, on va parler de nos infrastructures. Ça doit bien aller, ça, nos infrastructures au Québec?
Ça va très mal.
Ça va mal, tu penses? Penses-tu que c'est pour ça que Gabriel Jugard veut nous en parler?
Je crois que oui.
Ah ouais, tu penses? Autoroute payante, oui ou non?
Ça dépend où et pourquoi.
Hey, c'est ce qu'il va nous parler, Gabriel Giguère, parce qu'on se rend déficit d'entretien sur nos autoroutes, voyons donc.
Vous êtes surpris?
Ça paraît pas quand on passe de l'Ontario ou des États-Unis au Québec. Vous comprendrez mon sarcasme. On parle de ceci après la pause. On en jase sur Boulevard 102.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Boulevard.
Marceau, le soir. Le show le plus...